Voix enchantées.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter, je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantées, l'émission qui dure une vingtaine de minutes, où vous retrouvez, comme chaque mois, un ou une invitée qui vient nous parler de ses goûts artistiques, lire un texte personnel que l'invité a écrit et partager en fin d'émission une bribe de phrase marquante entendue dans son entourage ou l'espace public. La cinquième saison bat son plein en ce mois de janvier 2026 et à ce propos, très bonne année à toutes et à tous. Et je souhaite également tous mes vœux à notre invité Adriane. Bonjour Adriane.
Merci, bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, si tu as des passions, si tu as un travail, etc.
Moi, je suis doctorant à Paris 3. Je prépare une thèse qui porte sur les utopies au cinéma des années 60 et 70. Et du coup, ça, avec ça, je remplis déjà une belle partie de ma vie. Mais sinon, j'aime bien aller au cinéma, écouter de la musique, aller au concert, écouter de la musique en live. Oui, c'est mes deux grands passions dans les arts, comme on va voir aujourd'hui, je pense. Et sinon, je fais un peu du sport, du yoga, des trucs comme ça.
Ok, donc on est sur des bonnes résolutions pour l'année 2026.
Oui.
On commence tout de suite avec ton choix d'artiste. Adriane, tu as commencé par nous parler de ta passion et pour le cinéma et pour la musique. Là, tu as dû choisir un artiste qui pouvait appartenir à n'importe quel type de domaine artistique. Qui as-tu choisi ?
J'ai choisi les réalisateurs Werner Herzog. Du coup, là, on retrouve ma première passion, qui est le cinéma, du coup. Et Werner Herzog, c'est un réalisateur allemand qui est peut-être le plus connu des réalisateurs allemands, j'imagine, qui a commencé dans les fins des années 60 de faire des films et qui, depuis, je pense, 30 ans, habite aux États-Unis et maintenant, il fait des films en anglais. Et Werner Herzog, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés parce qu'il fait quelque chose avec les cinémas que je trouve vraiment impressionnant. Et à chaque fois, quand je regarde un de ses films, c'est vraiment une expérience.
Alors, tu parles d'expérience, expérience sensorielle. Quand tu regardes ses films, oui, il se passe quelque chose en toi en tant que spectateur.
Oui.
Tu pourrais dire ce que c'est un petit peu ?
Tout à fait. Werner Herzog, il a la capacité de nous montrer quelque chose sur l'écran qui dépasse l'écran en quelque sorte. Et il fait ça notamment aussi grâce à la musique, parce que par exemple, une chose qu'il fait très souvent, par exemple dans un de ses premiers films qui s'appelle Aguirre, la colère du dieu, le film il commence sur un panorama d'un paysage avec une musique chrétienne, un choral chrétien. Et il crée une image qui, par l'utilisation de la musique, est vraiment élevée à un niveau un peu transcendantal, je dirais même. Et ça, c'est un truc qu'il fait très souvent. Par exemple, il a fait un film dans les années 90, je crois, après la guerre entre l'Irak et le Koweït. Les soldats irakiens, ils avaient mis en feu puits de pétrole à Koweït, et du coup c'était un énorme feu de vraiment plusieurs kilomètres carrés, et Werner Herzog il a décidé d'y aller pour filmer ça.
Alors que c'est très dangereux et qui peut mettre en péril sa vie, quoi. Il y a ça.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, il a pas peur de mettre vraiment en danger sa vie pour filmer ses films. Là, ça se voit par exemple dans ce film-là à Koweït, du coup, parce qu'il approche vraiment le pétrole qui sort du sol et qui est en feu, et il s'approche avec sa caméra pour filmer ces feux-là, et on a l'impression que c'est un événement existentiel en quelque sorte, que c'est vraiment ça perd un peu les dimensions en quelque sorte. On regarde le feu et on a l'impression qu'on est face à une catastrophe naturelle, et je trouve ça juste très très impressionnant.
Donc toi, tu es impressionné par son esthétique, on pourrait dire, à l'écran, les images qu'il arrive à produire. Et est-ce que tu es aussi admiratif ou est-ce que tu le choisis aussi pour ce caractère un peu fou que certains disent voilà, c'est de la folie, d'autres disent c'est du génie.
Oui.
Est-ce que toi, c'est cette personnalité-là qui te fait te dire ok, j'ai choisi Werner Herzog?
Oui, tout à fait. Cette mélange entre folie et génie, ou peut-être une folie qui est nécessaire pour arriver à un certain génie, je trouve ça attirant comme modèle d'un artiste, alors que je sais bien que ça peut aussi déborder dans des niveaux problématiques, mais pour Werner Herzog, du coup, c'est pas le cas. Lui, il a toujours réussi à garder l'équilibre, mais c'est un côté existentiel dans l'art que je trouve très, très attirant. C'est pas que faire de l'art, c'est vraiment le faire avec tout son être, et ça m'impressionne.
Toi, tu étudies le cinéma donc dans une thèse.
Oui.
Tu es cinéphile, j'imagine. Est-ce que tu es attiré par la pratique du cinéma ou pas forcément ?
Moi-même, j'ai jamais essayé de faire des films. Et en vrai, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment attiré. Moi, c'était plutôt le côté contemplatif du cinéma et aussi intellectuel.
C'est ce que je voulais te demander. C'est des objets, peut-être ces films-là des années 70. C'est peut-être des objets d'études. Et ouais, à la fois, c'est beau parce que tu as commencé en disant « c'est des films qui me font ressentir des choses en tant que spectateur ». Donc, c'est assez beau de les prendre comme des objets pour ton intellect, mais aussi pour tes sensations physiques.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup. On continue en musique avec ton coup de cœur musical. On continue, Adrian, avec ton coup de cœur musical. Donc, c'est parmi toutes les chansons possibles de l'univers. Tu as dû choisir un morceau de musique. Mm-hmm. Est-ce que, avant qu'on l'écoute, tu peux nous dire le nom de l'artiste et le titre du morceau ?
C'est Nina Simone qui chante « Wild as the Wind ».
Spring.
Alors Adrian, pourquoi ce morceau ?
Parce que déjà c'est très très beau. La voix de Nina Simone que je trouve absolument magnifique. Et les instruments, le piano qui commence tout doucement et au refrain devient très intense. Je trouve ça très beau et ça fait une progression dans la chanson que je trouve très belle aussi. Mais c'est aussi pour les paroles parce que bah, ça parle de l'amour. Mmh. Et ça parle de l'amour d'une façon que je trouve très intéressante et très touchante parce que c'est un amour très ambigu. Ça commence par elle qui chante avec une voix plutôt faible, « love me, say you do mm-hmm. ». Bah, moi, ça me donne l'impression qu'elle est désespérée, elle supplie l'autre de l'aimer. Mm-hmm. Du coup, ça veut dire que cet amour-là, elle n'est pas donnée. Ça veut dire que c'est une tristesse, c'est une mélancolie qui joue, qui est présente.
Qu'on entend d'ailleurs dans la manière dont elle joue du piano, ça qui est assez fort aussi. La
Tout
voix et le piano. Quoi.
Oui, ça marche très bien ensemble, mm-hmm. ça se correspond. Et dans le refrain du coup, ça change. Même la tonalité, elle change. Je pense que ça commence en mineur et après, ça, dans le refrain, ça change en majeur. Elle dit you touch me. Du coup, quand finalement cette rencontre amoureuse, elle prend place, elle se met en réalité, elle devient réalité. C'est là où finalement elle s'épanouit et où ça devient quelque chose de joyeux, où on a l'impression qu'elle est heureuse. Et du coup, on a vraiment deux côtés de l'amour qui sont d'ailleurs aussi représentés par cette métaphore du vent, parce qu'il dit « my love is like the wind mm-hmm. ». Et du coup, le vent, c'est aussi, comment dire, c'est une force naturelle qui peut te prendre, mais qui du coup peut aussi juste partir. Et elle n'est plus là et on ne la voit plus et c'est comme si elle n'aurait jamais été présente.
C'est intéressant que tu donnes ton interprétation de la chanson sur les deux version un peu de l'amour, mm-hmm. parce que moi je me suis dit que c'est vrai, plus la chanson avance, plus c'est un amour concret, et mm-hmm. c'est vrai, avec des caresses, etc., qu'on n'est pas dans l'amour fantasmé et tout ça, on a l'impression que c'est très adressé à quelqu'un, au point où, par presque procuration, nous ça nous touche, et on se dit mais à qui nous on l'adresserait, ou est-ce qu'on voit quelqu'un à qui on l'adresserait, etc. Comme vision, parfois on se dit mais c'est quoi l'amour, on sait pas, c'est un peu évanescent, mm-hmm. et là c'est très concret, c'est... Même avec des images, elle lui dit « tu es le printemps pour moi ».
Oui.
C'est une image.
Oui.
Et pourtant, c'est concret.
Oui. Oui. Et c'est une belle image en plus. Mmh. Et juste après, elle dit « don't you know your life itself to me ?» Et ça, encore une fois, c'est très ambigu parce que c'est très beau à la fois quand la personne elle est présente. Du coup, cet amour, elle peut se concrétiser. C'est trop beau si elle représente vraiment la vie, bah, le printemps, mais la vie entière. Mais du coup, c'est aussi, il y a aussi un côté dangereux, parce que si c'est vraiment l'autre qui représente toute la vie, bah, si cette personne, elle s'en va, ou, ouais. Oui, bah, ça veut dire qu'on perd toute sa vie. Et ça, c'est le côté tragique qui est présent aussi et qui, moi, me touche aussi beaucoup.
Est-ce que tu dirais que c'est ta vision de l'amour ou pas du tout ? La personne est vitale ou c'est un peu exagéré ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Et
moi, c'est personnel, mais c'est l'émission, quoi.
Oui. Moi, je trouve ça, dans l'art, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, au cinéma pareil. Des histoires, comme j'ai déjà dit pour Werner Herzog, qui sont existentielles, où il se joue toute la vie. Ça m'attire beaucoup dans l'art. Mmh. Dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. Oui, en quelque sorte, oui. Mais comme j'ai dit, il y a un côté dangereux. Oui, et du coup, il faut aussi peut-être protéger contre ça, du coup, oui, c'est vrai que c'est très beau aussi dans la vraie vie, mais les rapports dans sa vie personnelle est quand même plus complexe que dans l'art, peut-être.
De vivre peut-être par procuration plutôt que directement dans notre cœur.
Oui.
On continue avec ton partage de texte. Après les questions personnelles, le texte personnel, c'est-à-dire que c'est toi qui as écrit quelque chose, peut-être il y a des années, peut-être pour l'émission, tu vas nous raconter. Qu'est-ce que c'est que ce texte ? Quelle forme il prend ?
C'est un texte que j'ai écrit très récemment, c'est-à-dire ce matin. Et je suis parti d'une impression du matin. J'ai un peu regardé autour de moi ce qu'il y a comme... inspiration. Et à partir de là, j'ai un peu essayé de coller ou collecter des bouts de souvenirs de matin, en quelque sorte.
Trop bien. Bah, on t'écoute si tu veux.
Ok. Il a plu la nuit. Les rues sont mouillées. Le ciel est toujours gris. J'ouvre ma fenêtre, mais l'odeur que j'aime n'est plus dans l'air. Que le vieux bruit de voiture. Je me lève pour faire du café. Là, une odeur que j'apprécie. En attendant la cafetière, j'ai lu les nouvelles. De toi, il n'y en a pas. Du monde, il y en a trop. Je regarde le mur. Je regarde mes pensées. Je regarde la fenêtre. Les rues sont encore mouillées. Il a plu cette nuit.
Merci beaucoup, Adrian, pour ton partage de texte. J'ai envie de dire que quasi tous les éléments naturels sont réunis entre le feu, le vent et la pluie. Vers quoi maintenant on va aller ? C'est une œuvre parmi tous les types d'art que tu aurais pu choisir. Toi, tu as choisi quel art ? Encore le cinéma, il me semble.
Oui.
Avec quoi comme objet ?
Avec un film qui s'appelle « Pourquoi pas ?» de Colin Serrault. C'est un film qui est sorti en 77 que j'ai découvert dans mon travail pour ma thèse parce que c'est un film qui raconte l'histoire d'une utopie. L'histoire, c'est dans une maison dans la banlieue parisienne où il y a trois personnes qui y habitent, Alexa, Louis et Fernand. Et on se rend compte que les trois, ils sont en couple. Du coup, c'est un trouble. Et bon, ça, c'est pas nouveau dans le cinéma à ce moment-là. Il y en avait déjà des films qui ont raconté une histoire comme ça. Sauf qu'ici, c'est différent parce que c'est une femme et deux hommes déjà. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, quand même plutôt rare. Et en plus, bah, il y a aussi une vie des couples et une sexualité qui est partagée entre les trois, du coup aussi entre les deux hommes. Ce qui, à l'époque, dans les années 70, était quand même encore une chose compliquée. C'est aussi pour ça que le film, au début, il n'a pas eu l'argent de CNC. Mais Colin Serrault, elle a insisté. Et du coup, finalement, ça s'est quand même fait. Mais ce qui me plaît notamment dans ce film-là, du coup, c'est que déjà, il est fait par une femme. C'est plutôt rare à cette époque aussi. Il est beau, mais il est moins naïf que quelques autres utopies de cette époque. C'est-à-dire, il se pose beaucoup la question déjà du genre. Il se pose la question de, alors, comment la vie dans cette espèce d'utopie individuelle, elle peut être organisée. Il y a plein de débats sur qui fait quoi, qui est responsable de la cuisine, qui est responsable de aller travailler pour avoir l'argent pour payer le loyer. Il y a toute une réflexion sur à quel point une utopie est même possible. Et du coup, au fil de l'histoire, cette petite utopie fragile-là, elle est menacée par le... Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais elle est menacée par le fait qu'une des personnages tombe amoureuse de quelqu'un d'extérieur. Et du coup, ils essayent d'intégrer cette quatrième personne dans leur vie commune. Et ça pose beaucoup de problèmes.
Il y a un élément perturbateur, quoi. Une personne en plus dans ce trouble.
Exactement. Et avec elle, viennent plein des contraintes, des problèmes du monde extérieur qui se réintroduisent dans cette petite utopie.
On écoute la bande-annonce du film.
Est-ce que vous avez un nouveau ? organisé un concours. Mais moi, je crois que Fernand aussi, il sait.
Alors, ça va les jeunes?
Très bien.
Comment?
Parle plus fort.
Très bien! Je t'interdis de regarder cette chambre, d'y mettre un seul pied, et lui aussi!
Qu'est-ce que t'es bête? Mais vas-y, ça passe pas comme Roger, ça prend jamais deux fois dans la journée!
Oh non, j'en ai ras-le-bol! Non, je peux pas tourner le dos! 5 minutes sans que tu détraques tout! Eh ben c'est ça, fous le camp! Alex!
J'aime assez comme dans la bande-annonce, on entend à la fois beaucoup d'intensité, de vitalité de ces personnes qui vivent ensemble, qui parfois se crient dessus, et la petite musique toute douce composée par Jean-Pierre Masse. Peut-être qu'on revient à cette espèce de paradoxe entre de la douceur, mais aussi des éclats de vie. Peut-être que c'est ça qui peut te toucher dans ce film, parce que tu nous parles d'utopie, du côté un peu intellectuel et tout ça, mais on est quand même sur des objets qui sont en fait les relations humaines, le désir, le polyamour, comment ça se passe, etc.
Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est clairement ça. C'est... À la fois, ça parle intellectuellement de la société, des relations humaines, mais en même temps, c'est un truc très concret. Ça, c'est la vie concrète, c'est vraiment comment je me comporte avec mon prochain, c'est comment on s'organise concrètement pour vivre ensemble. Mmh. Et oui, c'est pour ça que c'est beau.
On termine avec ta bribe de phrase.
Hey, listen, you too crazy, nigga.
Comme chaque étape finale, chaque mois, c'est la bribe de phrase que tu as entendue attrapée au vol, que ce soit dans la rue, les transports ou alors l'espace privé. Une phrase qui t'a marqué pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce que c'était que cette phrase et à quel moment elle est advenue?
Alors, il y a... quelques années, quand j'étais dans ma petite crise de toucher à mes 30 ans. Et du coup, je parlais avec une amie et je la racontais un peu ce que me traversait l'esprit et des questions comme est-ce que là, à 30 ans, je suis là dans ma vie où je voulais être quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'avais écouté un podcast où ils avaient posé la question si toi, tu raconterais toi de 16 ans. Qu'est-ce que ton toi à 16 ans penserait de toi aujourd'hui?
Eh ben, c'est profond.
Et du coup, oui, c'est vrai que c'est... Oui. Et du coup, j'ai parlé de ça, avec mon amie. Et à la fin de cette conversation, elle m'a dit, moi, je pense que ton toi de 16 ans, s'il rencontrait ton toi de maintenant presque 30 ans, elle serait fière de toi. Et en vrai, ça m'a beaucoup touché. Je trouvais ça très... je sais pas, très beau, très rassurant à la fois aussi. Entendre ça de quelqu'un qui me connaît bien, ça m'a fait plaisir et ça m'a vraiment touché.
Qui te connaissait peut-être à 16 ans déjà, cette amie, ou pas forcément?
Non, pas encore à 16
même
ans.
Même pas, mais elle le savait, quoi, elle
oui.
Le sentait.
Disons depuis le début de la vingtaine, du coup quand même assez longtemps, mais pas encore à 16 ans.
Trop bien, mais merci beaucoup Adriane d'avoir été la voix enchantée de 2026.
Merci de m'avoir invité.
Est-ce que tu as une résolution que tu as envie de partager avec les auditeurs et auditrices?
J'ai arrêté les résolutions.
Ah ouais. Mais oui. Moi aussi, j'en ai pas vraiment, je crois.
Je sais pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça tient qu'une semaine. Et du coup, je suis en mode non. Si j'ai un truc que je vais améliorer dans ma vie, je le fais quand c'est le moment et pas forcément pour le nouvel an.
Bon, ben ça, c'est une résolution peut-être.
Oui, c'est vrai.
Merci beaucoup. On se retrouve le mardi 10 février à 18h sur Radio Campus Paris. Je remercie à la réalisation Rosalie Bern. Merci beaucoup, à bientôt. Et en allemand, c'est bis bald.
Bis bald.